Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Laura Bagage, Zoé Gallard et Julia Bonifé pour vous présenter un podcast dans le cadre de notre cours de genre et performativité. On est avec Bendy Queen de la compagnie de la Colloque Drag. C'est un collectif d'art queer LGBTQIA+, situé à Poitiers et qui propose plein de projets, des spectacles de drag queen, kink, queer et participe à plusieurs événements et festivals.
Donc tout d'abord, définissons ce qu'est le drag. Il peut être king, queen ou queer. Pour définir ce terme de drag, on pourrait dire que c'est la performance d'un genre autre que celui attribué à la naissance, une construction d'une identité masculine, féminine ou queer, se détachant alors de ces catégories binaires, souvent performées de manière amplifiée. Mais c'est avant tout un art, il y a un véritable travail sur le maquillage, sur les vêtements, mais aussi sur le chant, le lip-sync et la danse inspirée du voguing. Cet art est né dans les milieux défavorisés noirs américains de la sphère gay, après que le drag se soit d'abord démocratisé aux États-Unis. Aujourd'hui, cet art s'étend dans le monde et notamment en France.
L'idée, ce serait de retracer un petit peu l'histoire du drag en pratique, à travers votre expérience, puis de voir avec vous vos activités, la question du genre dans le drag et comment elle est liée à la performance.
On va commencer par une question assez simple. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, moi c'est Bendy Queen, du coup je suis drag queen et je fais partie du collectif La Colloque Drag. Ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai commencé le drag et ça fait vraiment 1 an que je me suis bien mise dedans et professionnalisée. Le drag, j'ai commencé d'abord pendant le confinement, un peu quand j'avais des questions sur moi-même, que j'étais un peu perdue et qu'on était, j'avais rien à faire d'autre que de me poser des questions quand on est coincé chez soi. Et du coup, de ces moult réflexions et puis de la découverte du milieu drag sur les réseaux sociaux. Je me suis dit pourquoi pas me lancer, et de là est née Bendy Queen. Dans la vie de tous les jours, je m'appelle Flora, je suis une femme trans et je suis lycéenne encore, je suis la plus jeune drague de Poitiers puisque j'ai que 18 ans dans 2 mois. Et donc voilà, j'ai vraiment commencé assez jeune, mais pour moi c'était une évidence et ça m'a aidé à m'épanouir et à trouver mon identité quelque part. Donc je pense que mon expérience va un peu traiter de votre thématique parce que c'est à la fois une revendication personnelle par rapport à mon propre genre, tout le chemin que j'ai dû parcourir pour trouver mon identité, mais en même temps pour revendiquer quelque part tous les genres et la fluidité et l'expression en fait du genre sur scène, qui est complètement différente sur scène et dans la vraie vie, parce que je ne suis pas la même personne en quelque sorte sur scène et dans la vraie vie, mais le but est le même, on va dire. Je suis là pour revendiquer mon identité, la montrer et montrer que j'en suis fière.
Comme on est à Poitiers ici, est-ce que c'était plus compliqué dans un contexte de plus petite ville par rapport à la réception, les personnes intéressées? Est-ce que c'est un espace queer safe?
Quand j'ai commencé, du coup, j'avais 15 ans. Ça fait très bizarre de dire ça. Mais j'ai commencé et Poitiers... Parce que moi, je ne viens pas de Poitiers même, je viens un peu plus du milieu rural de Poitiers. Et donc, vraiment, de là où j'étais, j'avais aucune référence locale, on va dire. Et à cette époque-là, il y avait le confinement, donc il n'y avait quasiment plus rien. Et les seules références qu'il y avait, c'était des artistes queer plutôt, de l'association Transmission et Transcendance. Sauf que ces artistes, après, ont eu des chemins de vie différents et ont arrêté la scène sur Poitiers. Donc au début c'était compliqué et puis un jour Calo, Luna Light et Luna Sangré se sont mis en colocation sur Poitiers et ont essayé de farfouiller autour de Poitiers pour voir s'il y avait des personnes qui faisaient du drag en cachette. Et du coup Calo m'a contacté et m'a proposé de faire un shooting, de se rencontrer, de parler de ça. Et c'est vraiment là que j'ai compris que le drag allait devenir quelque chose de très important pour moi et que ça allait prendre une nouvelle tournure. Et puis elles ont commencé toutes les trois à faire des shows, à commencer à se faire un nom et à dévoiler la Colloque Drag petit à petit. Et puis je les ai toujours, j'étais toujours derrière à les suivre, à prendre exemple, parce qu'elle, elle faisait ça depuis un petit peu plus de temps que moi, et moi je débutais. Et puis là, ça fait 2 mois que j'ai officiellement rejoint la troupe, on va dire. Et on est une vraie famille, et maintenant, c'est plus facile maintenant que notre nom est fait dans Poitiers. Et il y a beaucoup plus d'événements de queer et beaucoup plus de lieux safe aussi. On n'a pas été vraiment embêté jusque-là par rapport à nos shows. Et on a vraiment réussi à amener une ouverture d'esprit même aux lieux qui n'étaient pas forcément safe. Je pense par exemple à certains bars à Poitiers ou aux maisons de quartier, parce qu'on travaille beaucoup avec le local, la M3Q. Et ce n'était pas forcément des lieux où des performances drag s'y étaient représentées auparavant. Et puis bah, grâce à nous, on a attiré un public aussi qui ne connaissait pas, qui ne sont pas forcément du milieu queer, et qui, bah, grâce à notre performance, ont pu nous poser des questions, se libérer de certaines questions, oui, et ont réalisé qu'il y avait une très belle scène drag à Poitiers et qu'on n'était pas juste des monstres bizarres qui veulent s'emparer de tous les petits enfants pour faire je ne sais trop quoi, et que nous sommes juste des artistes et des êtres humains comme les autres qui voulons nous exprimer et faire quelque chose de beau sur scène. Et je trouve que bah, maintenant, aujourd'hui, oui, c'est... Au début, c'était compliqué il y a 2-3 ans, parce que même quand c'était l'association, enfin quand c'était les anciens artistes, je crois qu'il y avait très peu de lieux à l'époque où elles se représentaient. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je veux dire, maintenant qu'on est vraiment bien connu et que ça s'est démocratisé dans Poitiers, en tout cas, on a presque un événement tous les week-ends, donc c'est assez cool, quoi.
Alors, même si c'est assez récent, est-ce que faire du drag, performer le genre, ça a changé ta relation avec le genre? Et où est-ce que tu es? Est-ce que tu es toujours dans le même état d'esprit qu'avant d'avoir commencé à performer?
Alors, bah, bien sûr. Le drag m'a beaucoup aidé à accepter ma transidentité. Parce que je me posais beaucoup de questions sur mon genre à moi avant de remettre le genre de mon personnage. Parce que sur scène, j'exprime aussi la féminité, mais il y a aussi un côté un peu plus fluide et créaturesque, si ça se dit, mais je ne sais pas trop. Et alors que dans la vraie vie, j'essaye au mieux d'exprimer ma féminité, de revendiquer qui je suis vraiment. Et le drag m'a beaucoup aidé pour cela, parce que bah, quand j'ai commencé à me maquiller pour le drag, etc., mettre les perruques, j'ai vraiment apprécié exagérer la féminité en moi. Et par ce moyen, en fait, j'ai appris à reconnaître ma propre féminité en tant que moi, Flora. Et ensuite, pouvoir encore plus l'exagérer en tant que Bendy, et vraiment pouvoir juste me concentrer sur ce que j'aime et ce que je n'oserais pas me permettre dans la vie de tous les jours. Et ça m'a aussi beaucoup... Le drag m'a aussi beaucoup aidé dans les choses auxquelles je n'avais pas confiance en moi, comme mon corps ou ma voix, par exemple, parce que j'adore chanter, mais chanter en civil, on va dire, avant, c'était impossible. Enfin, il y avait une espèce de barrière où le regard des gens me faisait trop peur et j'avais pas confiance en moi. Alors qu'en drag, la première fois que j'ai chanté, je me suis senti libérée, parce que en fait, le drag, c'est une espèce de carapace, c'est une espèce de costume qui nous permet en fait de pouvoir aller au-dessus de nos craintes et de nos insécurités. Et du coup, oui, j'ai pu aussi apprécier mon corps. Ça a été un très très long combat. Et grâce au drag, j'y suis arrivé, et j'y arrive maintenant aussi dans la vie de tous les jours à assumer mon identité et mon corps, et à l'aimer tout simplement, et grâce aux performances.
Du coup, à propos de ça, quelle est ta relation avec ton personnage? Est-ce qu'il évolue avec les réponses que tu as sur ton identité, comment tu gères cette relation entre personnage et vraie Flora ?
Ça dépend, en fait. J'arrive à dissocier les deux, sauf à une certaine heure de la journée où je suis trop fatiguée. Des fois, quand Flora est morte, Bendy débarque et c'est pas très bon signe. Mais j'ai réussi à faire la part des choses parce que Bendy et Flora n'ont pas vraiment le même caractère. C'est-à-dire que Flora, elle est pas introvertie, mais elle n'est pas ultra extravertie. Contrairement à Bendy, elle est ultra extravertie, elle a la pêche, et elle parle fort, elle déconne tout le temps. Bon, Flora aussi. Mais Bendy, elle déconne encore plus. Bendy, elle est sensuelle, elle est maligne, elle aime bien se foutre des autres, mais dans un sens où c'est bienveillant, bien sûr. Et j'ai réussi à vraiment dissocier les deux, et parce que sinon l'un ou l'autre peut être trop présent et prendre le dessus sur l'autre, et c'est pas forcément bien. Enfin, je me dis, je me vois mal en contrôle en Bendy. Il faut que je réponde à une thèse et que Bendy elle va juste dessiner. Enfin, elle serait en mode, oh, on s'ennuie. Et alors que, ou vice versa, enfin, je vois mal Flora sur scène juste dire bonjour. Voilà. Enfin, ce serait très étrange. Mais du coup, j'ai réussi à dissocier les deux, et je m'y retrouve maintenant mieux. Parce que pendant un très long moment, en fait, Bendy était en construction, elle grandissait. Du coup, quand j'ai commencé le drag, il y avait encore beaucoup Flora. Et du coup, ça se ressentait, ou sur scène, j'avais très peur, j'avais pas forcément confiance. Enfin, mais maintenant que Bendy a grandi et elle s'est nourrie de conseils, d'expérience, elle s'exprime complètement sur scène, et Flora est derrière, et c'est elle qui pense un peu pour l'aspect logistique des performances, les rendez-vous, l'emploi du temps. Là, on a une interview. Après, il faut aller coiffer sa perruque. Ce soir, il faut que je recouse ma robe. Il faut que j'aille acheter ci, ça. Enfin, tout ça, c'est Flora qui gère. Et puis, Bendy se contente juste d'être l'image et la beauté, si je veux dire.
Et justement, ces réflexions, est-ce que tu les construis avec des documentations, avec des livres, des reportages, ou est-ce que c'est aussi, ou les deux, avec les discussions que tu peux avoir avec d'autres personnes que tu rencontres ? Est-ce que tout ça, ça vient de toi personnellement, ou aussi du monde extérieur ?
Eh bien, un peu des deux. Au début, c'était de moi. J'ai suivi plein d'artistes drag sur Instagram, je regardais RuPaul's Drag Race, et du coup, ça m'a vraiment ouvert à cet art. Un peu comme tout le monde au final, et c'est ensuite, une fois que j'ai rencontré les trois, on va dire, le noyau de la coloc drag, donc c'est-à-dire Calo, Luna Light et Luna Sangré, que j'ai pu avoir là des vraies discussions avec des personnes concernées, et qu'on a beaucoup parlé de notre art et d'où est-ce que je voulais évoluer. Et du coup, pour la construction de mon personnage, je l'ai fait moi-même. Mais ensuite, pour l'évolution et, on va dire, la croissance, je me suis nourri aussi de mes propres recherches. Par exemple, pour faire évoluer Bendy, je me suis beaucoup documenté sur le burlesque. Je me suis aussi nourri des arts du cirque que je pratiquais avant le drag. Mais en même temps, j'ai aussi appris beaucoup de choses grâce à mes adelphes de la coloc. Et en partageant nos expériences, nos ressentis et nos avis aussi sur certaines choses. Enfin, je sais qu'on ne demande pas forcément l'approbation, mais au moins on aime bien montrer et réfléchir sur ce qu'on veut faire entre nous, entre la coloc. Et parce que c'est comme ça que, en fait, on arrive à se construire avec les avis de tout le monde et les points de vue de tout le monde. Et voilà.
Alors justement, comment penses-tu que le drag questionne le genre ? De quelle manière ? Et est-ce que ça ne le rendrait pas plus binaire au vu des utilisations des stéréotypes pour faire un personnage ?
parce que ça, c'est souvent une critique qu'on peut faire sur le drag de l'extérieur, mais on trouverait ça intéressant d'avoir ton point de vue de l'intérieur.
Alors, justement, à l'origine, je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça, que le drag serait sexiste parce que c'est une représentation des caractéristiques dites féminines, c'est-à-dire les robes, les cheveux longs, les talons, le maquillage, tout ça. Et il y a d'une certaine manière où oui, je pourrais adhérer à ce genre de propos, mais en même temps, c'est pas du tout ce qui est défendu dans le drag. En fait, le drag, c'est une réappropriation sans être une réappropriation, c'est-à-dire que c'est surtout une revendication. C'était surtout pour que à l'époque, les gays qui étaient très féminins puissent exprimer leur féminité sans qu'on leur reproche dans la vie de tous les jours, et que sur scène, ils pouvaient vraiment s'exprimer, exprimer ce qu'ils avaient besoin, en fait. Et du coup, ça a aussi donné beaucoup lieu à des questionnements sur le genre. Par exemple, on a beaucoup d'exemples de premières femmes transgenres médiatisées, comme Marsha P. Johnson, qui était une femme transgenre militante, mais aussi drag queen, parce que aussi à l'époque, les femmes trans, enfin je parle beaucoup des femmes trans, mais aujourd'hui maintenant avec le King, il y a beaucoup d'hommes trans aussi qui sont dans la même démarche, mais à l'époque, pour les femmes trans, le drag c'était une occasion de pouvoir exprimer leur identité, mais sans être codifiée de femme, parce que c'était impossible à l'époque pour une femme trans de dire, de commencer une transition ou d'avouer sa transidentité. Mais le drag, on va dire d'une certaine manière, comme il y avait l'aspect scénique et artistique, même si c'était très très mal vu à l'époque, c'était quand même une espèce de protection. Et moi, j'ai eu un peu ce même parcours, parce que j'ai commencé le drag et c'était une espèce de carapace en fait à ma transidentité, surtout au point de vue de ma famille, parce que on peut, on va dire, comment dire, dans ma famille, se travestir en quelque sorte, ça peut faire rire, et du coup, c'était mieux vu que de dire que je sois trans, par exemple. Et même si je ne suis pas encore officiellement out à ma famille pour ma transidentité, mais je le suis pour le drag, c'est une espèce de protection, c'est-à-dire que je peux montrer que je suis féminine, mais sans avouer que en fait, bah, je suis une femme, et que là, du coup, il y a une barrière en fait, en quelque sorte, où c'est le drag, c'est que pour la scène dans leur tête, et du coup, il y a une espèce de sécurité ou de soulagement, je sais pas trop comment dire, mais de leur part, alors que la mienne, et c'est, enfin. C'est aussi mon point de vue, c'est-à-dire c'est une protection pour moi. Je me dis, il y a la scène qui me sépare en fait des personnes en face de moi, de ma famille, et de moi derrière qui veut me protéger grâce à cette scène. Donc c'est pour ça que la scène drag est très important pour revendiquer son genre, parce que c'est une espèce de protection quelque part. Et du coup, dire que ce sont que des représentations de stéréotypes de genre, c'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que à la colloque drag, par exemple, on est beaucoup d'artistes drag queer. On a Jonathan, Luna Sangré, on a Paper Glow, enfin on est, et même moi des fois j'aime bien aussi exprimer une part un peu genderfuck. On représente sans vraiment représenter. Enfin, c'est-à-dire que ces codes-là sont tellement liés à nos personnages, et que nos personnages n'ont pas forcément de genre, que dire que c'est stéréotyper un genre, c'est pas forcément vrai. Justement, on l'exagère et on le réinvente d'une certaine manière. On réinvente le genre. C'est-à-dire qu'on va avoir Calo, qui va avoir un drag plutôt féminin, mais qui va garder sa barbe, sa moustache, qui garde sa pilosité et qui, en fait, on sait que c'est Callot. Enfin, Callot, c'est une créature féminine, on peut dire, mais elle réutilise des stéréotypes de genre, mais pour autant... on ne peut pas dire que c'est une caricature de la femme parce qu'elle réutilise aussi des stéréotypes de genre masculin. Et c'est ça que le drag apporte, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code, et nous, on veut juste exprimer ce qu'on a envie d'exprimer sans forcément penser que c'est forcément stéréotypé.
Est-ce que, par la suite, tu considères le drag comme une lutte intersectionnelle ? Est-ce que vous vous reliez avec d'autres enjeux du féminisme, du validisme, des luttes LGBTQIA+ ? On a vu que la colloque drag, ils font pas mal de projets. Ils ont fait notamment un projet en faveur de l'écologie. Donc, dans quelle mesure c'est intersectionnel ou non ?
Ah bah, bien sûr. En tant que minorité, on supporte les autres minorités. C'est normal. Et oui, l'année dernière, du coup, la coloc est partie à Marbourg, en Allemagne, en projet avec la mairie de Poitiers. Et le but étant de s'y rendre de manière écologique. Et donc, on avait utilisé les bus et le train. Ainsi que la marche, le vélo, et on s'est rendu dans plusieurs moi j'y étais pas, mais en tout cas Callot, Luna Sangré et Luna Light se sont rendus dans plusieurs étapes à travers l'Europe, sur le chemin de l'Allemagne, et donc il y avait cet aspect écologique parce que on est une coloc VG vegan, donc on essaye de sensibiliser sur l'importance que la viande et la consommation de viande a sur l'environnement et ainsi que sur notre santé. Et aussi, on a profité de ce cadre-là pour parler de la situation des personnes LGBT à travers l'Europe. Donc, on s'était rendu à Paris, je crois, elles se sont rendues à Nancy, Strasbourg. Et puis ensuite Francfort et enfin Marbourg, qui est la ville jumelée avec Poitiers, qui est aussi une ville universitaire. Et là-bas, on a pu échanger avec des collectivités LGBT+, et se produire sur scène, etc. Mais tout ça, en fait, en liant l'aspect écologique. Et du coup, on est assez engagé sur plusieurs causes. On fait aussi très attention, forcément... aux questions sur le racisme, etc., l'appropriation culturelle et le féminisme, bien sûr. Enfin, j'ai fait une performance vendredi dernier qui dénonçait les violences sexuelles sur la chanson Invitation de Ashnikko et Cody Shane, parce que c'est important de défendre et de montrer sa position. Politique ou non, sur scène, c'est aussi pour ça qu'on utilise la scène, c'est pour avoir plusieurs messages. Moi, ma toute première performance, je l'avais faite sur la chanson The Seed de Aurora, qui dénonce la crise écologique et l'inaction en fait des États. Et pour moi, c'était important parce que des sujets d'actualité que nous, avec notre plateforme, on peut aider à diffuser et à prendre la parole dessus parce qu'on sait qu'on est dans un milieu où on sera écouté. Et c'est pour ça que nous, notre engagement est très important dans toutes les luttes minoritaires. Donc le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc.
Alors j'ai une question qui va être un peu délicate, donc si tu ne veux pas y répondre, sens-toi libre. Est-ce que tu as déjà été la cible de transphobie au quotidien ou lors de représentations ?
Alors en représentation non, parce qu'en principe on a notre public qui est un public bienveillant et qui est averti et qui connaît en quelque sorte le milieu. Donc on n'a pas eu de problème sur ce point-là. En revanche, dans la vie tous les jours, je me suis prise quelques remarques transphobes dans la rue, qu'on me criait « Ah, le travelo !» et ce genre de choses. Donc, ou qu'on me regarde très mal, qu'on me pointe du doigt. Enfin, oui, c'est sûr que... certes, Poitiers est une safe place dans le sens où il y a quand même une bonne commu LGBT+, et qu'on essaye de faire bouger les choses. Mais après, c'est comme dans tout endroit, en fait. En étant une minorité, en étant quelque sorte une chose un peu étrangère à la société, on n'est pas à l'abri de rien, et je n'ai pas été à l'abri de rien. Mais cela dit, après, moi, personnellement, je sais prendre ça avec des pincettes, je sais le prendre sur moi-même et passer outre. Ou alors des fois, s'il y a possibilité de venir en discussion avec la personne, lui demander pourquoi elle me dit ça ou quel est le but en fait, et que à ce moment-là les personnes se retrouvent impuissantes parce qu'elles ne s'attendent pas à ce que je leur réponde, et elles s'attendent juste à ce que je m'effondre par terre en pleurant, et voilà, alors que non, enfin, moi je veux juste savoir pourquoi la personne a cet état d'esprit et qu'est-ce que je lui ai fait de mal pour qu'elle m'insulte dans la rue alors que je marchais tranquillement avec mes amis et que je lui ne demandais rien du tout. Et je pense que c'est important, et de le faire dans la bienveillance, et que si, et qu'en revanche, si on ne se sent pas en sécurité et si on voit qu'il n'y a pas de discussion à avoir, de juste essayer d'alerter, on va dire, les gens autour, de montrer qu'il y a un potentiel danger et de se mettre en sécurité. Donc que ce soit tout simplement de s'éclipser, de s'en aller le plus vite possible, ou juste d'appeler les forces de l'ordre, même si c'est pas forcément le plus safe non plus. De ma propre expérience sur scène, non, je n'ai pas eu ce problème. Après, dans la vie de tous les jours, je l'ai rencontré.
Est-ce que, sans se définir queer ou expérimenter le drag, tu as des conseils sur comment on peut s'impliquer, comment être un bon allié ?
Je pense que la clé, c'est de s'éduquer, c'est-à-dire de se renseigner sur qu'est-ce que la communauté LGBT, en quoi ça consiste, pourquoi on est une communauté, pourquoi on a des droits, parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Et je pense que ça, c'est ce que tout le monde devrait avoir comme réflexion, c'est qu'à partir du moment où on met de l'importance sur le mot humanité, on ne devrait pas, en fait, avoir de préjugés sur quiconque. Et que si on en a, et bah, la discussion, c'est le meilleur moyen dans la bienveillance. Moi, je suis toujours ouverte à une personne qui n'est pas forcément renseignée ou quoi, et qui me pose des questions qui peuvent être maladroites. Mais à partir du moment où je sens, où elle le dit, je suis désolée, je suis très mal renseignée et je ne sais pas, et j'ai cette question-là et j'aimerais en savoir plus, je ne vais pas me brusquer ou me refuser à lui répondre, parce que justement, c'est par là que l'éducation est se fait, en fait. Et du coup, je pense que oui, avec l'éducation et la discussion, c'est le meilleur moyen d'être un bon allié, et pour ainsi respecter, on va dire, au mieux les désirs des personnes queer. Enfin, les désirs, c'est-à-dire juste le respect, tout simplement. Le respect et... Je ne sais pas si on peut dire au maximum ou au minimum, mais la compréhension. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui, je pense surtout aux vieilles générations, qui pourraient ne pas comprendre parce que, voilà, ils n'ont pas eu cette dimension du respect et de la connaissance à leur époque. Mais je pense qu'à partir du moment où on est respectueux et qu'on pose des questions, on est déjà un bon allié.
Sur une question un peu plus générale, que penses-tu de l'évolution de la culture drag et queer dans la société ? Car on remarque qu'elle prend de plus en plus de place, elle sort même des sphères marginales et underground. Et donc, selon toi, quels seront les nouveaux enjeux suite à une potentielle démocratisation ?
Oui, le drag a pris de l'ampleur comme jamais depuis ces 5 dernières années, enfin même 10 dernières années, depuis la création en fait de RuPaul's Drag Race et la diffusion sur Netflix, qui a vraiment ouvert au monde cet art-là. Même si, bon, RuPaul Drag Race montre qu'une infime partie du drag, parce que le drag, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Comme vous avez dit, il y a les drag kings qui sont très invisibilisés aux États-Unis, mais qui commencent petit à petit à prendre leur place, la place qu'ils méritent. Et il y a les drag queer et les créatures, les club kids et tout ça, ça a une histoire et ça constitue le drag. Et aujourd'hui, il prend de l'ampleur. Et c'est sûr que grâce à la franchise Drag Race, ça a aidé beaucoup de choses, notamment en France avec sa venue, mais aussi grâce à la documentation, du coup, sur les médias, les plateaux télé. Maintenant, on ose inviter des drag queens, des drag kings ou des drag queer pour parler de ce sujet-là. Et je pense que ça aura forcément un impact positif sur la société parce que maintenant, très jeune, enfin, dans notre public, on a vraiment des enfants qui, après, pourront peut-être avoir plus d'aisance pour se poser des questions ou même tout simplement être un bon allié. Enfin, je veux dire, quand on est enfant et qu'on a vu des drag queens, je pense pas que à l'avenir, je pense que ça aidera justement à l'avenir à comprendre certaines choses et à être respectueux et à savoir en fait, parce que je pense que l'homophobie et la transphobie sont beaucoup liées, c'est de base une peur, mais c'est aussi lié à un manque de connaissances et un manque de visibilité, parce que je vois de ma génération, on doit être de la même génération, mais à mon époque il n'y avait pas de représentation en fait, tout simplement, et c'est pour ça que les seules représentations, les seuls avis que j'avais sur la commune LGBT+ ou les dragues, c'était que les préjugés que mes parents avaient dessus, parce que en plus je venais d'un milieu rural, donc c'était encore plus serré, c'est-à-dire que par le mot PD et trave, il y avait rien d'autre, Donc je pense que la démocratisation du drag va aider en fait, je pense d'une certaine manière, peut-être ou peut-être pas, hein, mais j'espère peut-être, à aussi un relâchement des agressions homophobes et transphobes, parce que il y aura plus de compréhension, il y aura plus de modèles de représentation pour les générations futures, et ça aide aussi pour les anciennes générations à comprendre notre génération à nous. Moi je sais que par exemple comme je l'avais dit, je viens d'un milieu rural et mes parents, surtout ma mère, avaient que des préjugés là-dessus, et quand je lui ai prononcé le mot drag pour la première fois, elle était flippée comme jamais, je l'ai vu son visage se décomposer, et il a suffi qu'elle vienne me voir à mon tout premier show, et je lui avais dit que je lui avais pas dit que je performais, elle était juste me récupérer à la fin, mais elle arrivait en avance, et qu'elle me surprenne sur scène et que les gens m'acclament, et qu'elle se rende compte qu'en fait les dragues, on n'est pas des monstres et qu'on met sur la voie publique et qu'on leur jette des tomates et qu'ensuite on les met en prison et on les fout sur un bûcher. Là, elle a pu vraiment comprendre que les choses ont changé, et ensuite elle a pu discuter avec la coloc et se rendre compte que c'est étrange, c'est plutôt cool en fait, vas-y, fonce. Et du coup, je pense que la démocratisation du drag, c'est très important et ça va vers le positif. J'allais dire le négatif, n'importe quoi. Ça va vers le positif et ça n'ira que vers le positif, je pense. Rien qu'à Poitiers, ça fait évoluer les choses, parce que maintenant, on ne peut pas parler du drag sans qu'on mentionne la coloc drag et qu'on lui dise « Ah, mais c'est incroyable, je connais quelqu'un qui a été voir et qui était super content. » Et qu'après, on est même des jeunes qui viennent nous voir sur Instagram, nous dire « Ah, je suis venu avec mes parents et j'ai pu enfin leur parler, j'ai pu leur faire mon coming out, tout ce genre de choses, parce qu'ils ont compris que il y avait une communauté bienveillante à Poitiers et que c'était un art incroyable ou ce genre de choses. »
Donc, on arrive à la fin de ce podcast. On voulait te remercier pour être venu, pour tes paroles très inspirantes, ton parcours de vie. Et on voulait aussi remercier la coloc drag qui intervient à Poitiers et qui change le regard sur le genre, qui change beaucoup de choses à Poitiers et qui fait des actions formidables. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés.
Eh bien, merci à vous, en tout cas, de nous donner la parole. On n'est pas prêt de se taire à la coloc, hein, vous n'avez pas fini de nous entendre. Puis, bah, suivez-nous sur Instagram, c'est là qu'il y a toutes les informations, sur Facebook aussi, on a un TikTok, tout ça, @lacolocdrag, et suivre tous les artistes qui la composent, cette belle famille d'artistes, et puis très hâte de vous retrouver prochainement sur nos projets.